France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le combat des ouvriers de SKF à Ivry-sur-Seine. Mai 1985. Cela fait 20 mois que les ouvriers de l'usine de roulement à billes SKF d'Ivry-sur-Seine, promise à la fermeture par ses propriétaires, occupent les lieux. Le 28 mai, précisément, ils sont réveillés brutalement par l'intervention des forces de police qui viennent les déloger, tandis que les sirènes de la mairie hurlent à la mobilisation des habitants et que les cloches de l'église carillonnent leur indignation face à l'irruption des CRS et le déménagement des machines. 600 jours de lutte se terminent ainsi. Enfin, pas tout à fait. Puisqu'une semaine plus tard, dans un sursaut de détermination, un groupe d'hommes organisé en commando mène une reprise en main de l'usine. Un baroud d'honneur qui rendra à certains un peu de fierté dans cette France des années 80 qui continue de brader son tissu industriel. Politique entamée dès les années 70 sur des secteurs comme le textile, la construction navale, la sidérurgie et les charbonnages et dont l'affaire SKF est une conséquence directe. Notre invité aujourd'hui, Gérard Streff, journaliste, essayiste et romancier, auteur du livre « La légende SKF, lutte, emploi, industrie », livre paru en avril 2025 aux éditions du Petit Pavé. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Odile Conseil, rédaction chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Ronxin.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter.
Si cette histoire se termine en 1985, en réalité, elle commence plus tôt, en 1983. Et elle commence fort. Illustration avec cette action des salariés de SKF, Ivry le 15 juin de cette année-là, écho sur France 3, reportage de Dominique Rotival.
En décidant d'occuper le siège social de SKF, les travailleurs d'Evry espéraient faire revenir la direction sur sa décision de fermer l'usine fin 83. Une fermeture qui entraînerait la suppression de 700 emplois. Les membres du conseil d'administration, conseil comprenant notamment François Serac, les responsables suédois de SKF et les délégués du personnel, étaient en réunion. Selon la CGT, c'est en voyant arriver la délégation que les responsables de la société ont fait bloquer les ascenseurs et sont restés au cinquième étage dans une salle fermée par une porte blindée.
Précisons que François Serac, membre du directoire de SKF France, est aussi l'ancien patron des patrons. Une figure d'importance, donc. En tout cas, c'est la première action d'éclat des salariés de SKF. Elle se prolongera quelques heures jusqu'à ce que les manifestants soient expulsés par la police. Mais ce ne sera pas la dernière, en ce moment clé de l'histoire du pays, qui voit le Parti Socialiste prendre le tournant dit de la rigueur. Mais commençons par le commencement. Et le groupe suédois SKF, dont le sigle signifie « Fabrique suédoise de roulement à billes », a racheté en 1929 l'entreprise RBF pour roulement à billes de France, qui existait depuis 1904. Au début des années 80, le groupe, dont le siège est à Göteborg, en Suède donc, est prospère. Il possède des usines dans tous les grands pays industriels de la planète, emploie quelques 5000 salariés sur 4 sites en France, dont 616 à Ivry-sur-Seine. Même si près de 1400 postes ont été supprimés en 15 ans dans cette usine, les ouvriers et ouvrières, syndiqués pour une très grande majorité à la CGT, y sont fiers des roulements à billes qu'ils fabriquent. Des pièces qui équipent automobiles, trains, camions, navires et nombre de machines industrielles. Mais des nuages arrivent et s'accumulent. En 1978, une usine SKF installée à Bois-Colombes ferme. 270 des 537 salariés sont licenciés, soit la moitié. Comme en atteste cet extrait d'un article du quotidien Le Matin de Paris.
La direction explique pour justifier cette fermeture que la compétitivité de SKF par rapport à ses concurrents allemands et surtout japonais a encore baissé. Il s'agit en tout cas d'une étape de plus dans la désindustrialisation de la banlieue parisienne qui n'a cessé de s'aggraver depuis 6 ans.
Désindustrialisation. Ce mot, si employé aujourd'hui, et ce n'est pas un hasard, jette une ombre noire sur l'activité de tout le pays. À Ivry, on a des raisons de s'inquiéter. Dans les derniers jours de l'année 82, profitant d'une semaine de chômage technique imposée au moment des fêtes, la direction s'apprête à déménager une chaîne de montage pour l'envoyer en Italie. Mais grâce à la mobilisation immédiate des syndicalistes, rapidement prévenus, et le soutien sans faille du maire communiste d'Ivry, Jacques Lalloé, le camion venu charger la machine repart à vide. Mais quelques semaines plus tard, les craintes sont confirmées. La direction du groupe veut fermer l'usine d'Ivry sous prétexte d'une productivité trop faible et de la concurrence trop forte de l'Allemagne et du Japon. La réponse est immédiate. Pas question que l'usine ferme. Et immédiatement, la mobilisation se met en place. Le 24 mars, le conseil municipal d'Ivry adopte une motion d'urgence assurant, je cite, « apporter son soutien à toute action des travailleurs, ingénieurs, cadres et techniciens d'ASKF qui refusent la cessation de cette activité ». Les salariés critiquent durement la direction, qui demande à l'État 200 millions de francs via le Fonds national de l'emploi, ainsi que la prise en charge du chômage technique si l'usine ferme. La CGT estime, elle, que cette usine-là est viable, qu'elle est sous-utilisée et que le laboratoire qu'elle abrite, dédié à la recherche et à l'innovation, est particulièrement en pointe. C'est vrai qu'on y met au point les roulements spéciaux destinés à la fusée Ariane, s'il vous plaît, au Mirage, au TGV. La dernière génération de ce produit est alors en cours d'expérimentation sur la Formule 1 Ligier. Elle permet de changer une roue en 15 secondes. Commence alors une période de mobilisation tous azimuts pour démontrer la viabilité des propositions syndicales. Redémarrer avec 500 ouvriers, en prévoyant une deuxième unité de production avec 5 chaînes ultra-modernes et 250 salariés, écrit l'anthropologue et chercheur Alain Berthaud dans l'ouvrage « Ce du Val-de-Marne » qui revient sur ce conflit. De fait, des discussions s'amorcent avec les pouvoirs publics. Georges Marché, secrétaire général du Parti communiste, élu du département du Val-de-Marne, rencontre en juin Laurent Fabius, ministre de l'Industrie. Le PC, à ce moment-là, est encore au gouvernement, aux côtés des socialistes. Il y restera jusqu'à la mi-84. Une première réunion qui ne donne rien. Alors, un autre rendez-vous entre les deux hommes est pris le 19 décembre. Et encore, échec. Et à cette époque, l'usine est toujours occupée. Réaction de Georges Marché sur Interactualité.
C'est une entrevue, je pense, qui a été positive. Pour ce qui me concerne, nous ne contestons nullement qu'il y a des mutations à opérer en fonction même du développement technologique, en fonction même des certaines retombées de la crise internationale. Mais j'ai confirmé que selon nous, ces mutations ne doivent absolument pas s'effectuer sur les décombres de ce qui existe maintenant. Et que ces mutations doivent être conduites avec un grand esprit de responsabilité et avec le souci de défendre les intérêts des travailleurs.
Même Georges Marché le reconnaît, la conjoncture a changé depuis l'enthousiasme de 1981. François Mitterrand a respecté le contrat démocratique passé avec ses électeurs. En 2 ans, il a fait voter l'essentiel de ses lois sociales qui ont profondément changé la France, à défaut de changer la vie. Mais ce programme a coûté cher. Il faut donc changer de cap pour que la France reste compétitive. Alors, en ces années 83-84, les licenciements succèdent aux licenciements par milliers. Le plan acier prévoit 21 000 suppressions d'emplois dans le Nord et en Lorraine. Peugeot licencie massivement dans son usine à Talbot. À Poissy, Citroën fait de même à Aulnay-sous-Bois. L'État abandonne l'entreprise Creusot-Loire à son sort, estimant que ce n'est pas à lui d'intervenir, mais au groupe qui la possède. 30 000 personnes sont concernées par ce dépôt de bilan. Même principe pour SKF, qui appartient également à un groupe international avec ses 616 salariés. Oui, le gouvernement socialiste opère un virage vers la rigueur. Un mot que le Premier ministre Pierre Mauroy prononce pour la première fois le 21 mai 1982. Un mot que les Français n'ont pas fini d'entendre. Le président de la République lui-même le reprend dans un discours prononcé à Figeac en septembre 1982.
Et si, aujourd'hui, je demande, comme c'est nécessaire, à la nation tout entière de s'assembler et d'accepter la rigueur de l'effort, cela ne sera possible, retenez bien, que si nous sommes en même temps capables de corriger les injustices, de demander plus à celui qui a plus et moins à celui qui possède si peu.
Et rigueur ou pas, à Ivry, on ne reste pas inactif. Pique-nique géant à l'occasion du congrès départemental de la CGT, opération porte ouverte à l'usine, blocage de trains sur les voies ferrées. le 22 septembre 83, une tonne de roulements à billes importés est déversée devant la préfecture à Créteil. Plus tard, c'est le ministère de l'Industrie qui aura droit à une livraison de roulements devant sa porte. Mais rien n'y fait. Le 28 octobre 83, l'inspection du travail autorise le licenciement de 495 salariés. Les autres ont déjà été reclassés sur d'autres sites. L'usine d'Ivry doit fermer à la fin de l'année. Ce jour-là, à 17h, les sirènes de la ville appellent les habitants à manifester, avec un seul mot d'ordre, SKF vivra. On dénonce la politique de casse de la direction de SKF et du groupe PSA. Celui-ci, en effet, achète les roulements à billes qui équipent ses moteurs à l'étranger où ils sont moins chers. De surcroît, le groupe Peugeot est représenté au directoire de SKF France, il en est ainsi son premier client, et selon la CGT, il importe tellement de roulements à billes qu'une simple diminution de 2%, pas plus, 2% en faveur de SKF permettrait la survie de l'entreprise. En attendant, le 5 novembre, les salariés réunis dans la cour de l'usine à l'appel de la CGT votent l'occupation du site. Elle durera 20 mois. Un nouveau combat commence. Une vie différente se met en place dans et autour de l'usine occupée. Une vie faite de partage des tâches quotidiennes, d'activisme militant, de surveillance des bâtiments, nuit et jour. Une vigilance essentielle, car dès les premiers jours de l'occupation de l'usine, une ordonnance de référé a été rendue qui autorise SKF à faire dégager l'accès de ses locaux par tout moyen avec l'assistance de la force publique. On anticipe donc une possible intervention, mais on vit aussi au sein d'un collectif soudé. Le délégué CGT, Patrick Wanard, raconte dans l'ouvrage « Solival-de-Marne » d'Alain Berthaud.
On avait créé une communauté. On avait l'équipe active de copines qui collait. Une autre équipe de copines passait son temps au téléphone à appeler tous les syndicats, les sections syndicales, les unions locales CGT, les unions départementales. On allait partout avec la staffette de la SKF, sur laquelle on avait peint « SKF vivra ». Il y avait une équipe de maintenance qui s'occupait de l'occupation, qui réglait la présence la nuit, parce qu'il fallait du monde la nuit. Donc on faisait des tableaux avec un tour de rôle. On a aussi pris possession de la cantine, on a mobilisé 20 ou 25 camarades là-dessus, avec un chef cuistot qui était OS avant, et qui allait le matin au hall à Rungis, avec l'estafette, acheter de la bouffe, du vin.
Des chômeurs qui ne chôment pas. En voici quelques exemples, parmi d'autres. Ils occupent des écluses sur la Seine, organisent une marche de 10 jours en région parisienne avec des débats et rencontres dans 17 communes. En mars 84, appuyés par une association d'Ivriens, ils affrètent un bateau-mouche. Sur l'eau et en fanfare, ils déploient une immense banderole « SKF vivra ». Ils s'arrêtent au pied du pont d'Alma et rejoignent en cortège le siège du CNPF, devenu MEDEF aujourd'hui. Une motion est remise à Yvon Gattaz, le patron des patrons, qui est aussi membre du directoire de SKF France, rappelons-le. Bref, ils sont infatigables, les salariés de SKF. Ils ne veulent pas que leur lutte tombe dans l'oubli, alors ils multiplient les actions. En mai 84, ils se rendent ainsi à Göteborg, siège de SKF. L'événement est largement traité dans la presse, comme ici, dans Libération du 25 mai.
Une heure durant, l'artère principale de la ville a battu au rythme des slogans français scandés par 182 irréductibles ivriens. L'emploi, c'est la vie, SKF, c'est Ivry. L'internationalisme prolétarien avait pris l'avion pour surmonter les frontières, mais au pays du syndicalisme social-démocrate, la mayonnaise n'est pas montée. Les défenseurs cégétistes et communistes de la SKF sont repartis vers la mère patrie quelque peu dépités. Il est vrai que Lennart Johansson, le grand patron de SKF, avait éconduit ses interlocuteurs en les renvoyant vers la direction de SKF France. Or, il est d'ores et déjà acquis qu'une rencontre avec la direction française n'aboutirait pas à grand-chose dans la mesure où, à Göteborg, on laisse entendre qu'il n'y a plus rien à négocier.
Jamais qu'une borne que tu m'aimes. Je sais pas si je... Ponce Pilate. Cherche un circuit pour que je m'éclate.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le combat des ouvriers de SKF à Ivry-sur-Seine.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Le 4 avril 1984, François Mitterrand tient la troisième conférence de presse de son mandat. Dans un message à ceux qui souffrent de la crise, je le cite, il déclare.
Je leur dis, l'avenir de la France passe obligatoirement par la modernisation de son industrie. Ou bien la France sera capable d'affronter la concurrence internationale et elle assurera du même coup son indépendance et sa prospérité. Ou bien elle sera tirée vers le bas et elle ira vers son déclin.
C'est la première fois que le président aborde de front la question des fermetures d'usines et des suppressions d'emplois dans l'industrie. C'est que les temps ont bien changé. Mais tous les Français ont l'occasion de s'en rendre compte lors de cette même année 84. En février, un programme télé intitulé « Vive la crise » marque le passage vers une nouvelle époque où l'on célèbre le culte de l'entreprise et de l'entrepreneur audacieux, où l'on affirme que la crise peut et doit sortir une nouvelle société, un nouvel individu dynamique et entreprenant personnellement responsable de sa réussite. Bref, le collectif est mort, le libéralisme triomphe. Il est loin, le temps où Pierre Mauroy, Premier ministre, s'engageait dans son discours de politique générale du 8 juillet 81 à mener une lutte sans merci contre le chômage. L'intention était sincère, évidemment, mais les moyens d'y parvenir n'ont pas été trouvés. En tout cas, celles et ceux de la SKF ne baissent pas les bras. Mois après mois, ils continuent sans faillir à mener des actions, à mobiliser, à lancer des invitations. Le directeur de l'Humanité, Roland Leroy, vient à l'usine les soutenir. Le chanteur Karim Kassel se produit sur place. Henri Krasucki, secrétaire général de la CGT, vient aussi visiter l'usine occupée depuis maintenant 8 mois. On lui montre fièrement les chaînes de production soigneusement entretenues et maintenues en état de marche. Oui, dans l'usine, une autre forme de vie s'est installée. La solidarité des uns et des autres, le soutien de la municipalité communiste, qui ne va pas laisser passer une telle occasion, leur permettent de tenir bon. Joyeusement même. Dans l'ouvrage « Ceux du Val-de-Marne », Alain Berthoud raconte.
L'usine est là, on la garde, on y va tous les matins, comme au travail. Certains, habitués au travail d'équipe, viendront jusqu'au bout à 5 heures du matin. La vie familiale s'organise ou se désorganise autour de la rotation de garde. Les femmes le jour, les hommes la nuit. SKF n'est pas une lutte triste. Il y a les soirées, les bals, la solidarité, ce pôle local de rassemblement dans une ville chargée d'histoire. SKF devient un petit phalanstère avec son jardin, son cochon, son économie parallèle.
Oui, son cochon. Il a été offert aux syndicalistes qui, très élégamment, l'ont prénommé François Laurent, comme Mitterrand et Fabius. Mais les SKF découvrent une autre raison d'être en colère. Dans les bureaux de la direction, ils ont trouvé un cahier qui les a fait bondir. Le fichage des candidats à l'embauche. 598 postulants ont ainsi fait l'objet d'enquêtes par une société spécialisée dans ce genre de pratiques, avec l'aide de la police. Sur le cahier en question, on peut lire par exemple « Pascal C, communiste prononcé, contestation » ou encore « Alain L, famille laborieuse et honorable, mais communiste notoire, à surveiller ». Et les femmes aussi. Celle-ci a des mœurs légères, une vie sentimentale agitée. Cette autre est assez peu courageuse, souvent absente. Tollé. La direction de SKF, elle, sans complexe, ne voit pas le problème et affirme qu'il s'agit d'une pratique courante dans toutes les entreprises et que cela relève de précautions normales. Et ce qui devait arriver arrive, l'intervention policière tant redoutée. Le 28 mai 85, les CRS investissent l'usine pour en déloger les occupants. L'assaut se déroule au petit matin, comme il se doit. Immédiatement, Ivry s'enflamme. Les syndicalistes, qui n'étaient pas dans l'usine, accourent. Les Ivriens font masse. Mais si les uns ont, pour eux, le nombre, les autres ont la force. Dans le film SKF à Ivry, mémoire d'un conflit social, réalisé en 2018 par Cédric Desbarbès, une militante se souvient.
On n'avait rien pour se défendre quand on a fini avec nos lances d'arrosage ou des trucs comme ça. Quand on a fini d'envoyer les boulons qu'on avait sous la main, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'avait pas d'armes, on n'avait rien du tout. On n'était pas égalisés, on n'était pas armés, on n'était pas protégés. Ils avaient des boucliers, des masques, des costumes entiers. Nous, on était chaussés avec nos chaussures à talons. Enfin, vous voyez, le plus qu'on a fait, c'est de prendre nos chaussures à la main, de courir pieds nus. Enfin, je veux dire, on n'avait rien. Donc, il n'était pas question de répondre à cette violence comme ça. C'était insupportable pour nous de penser qu'on réglait le conflit avec des CRS. Ça pouvait pas se faire. On était en train de négocier. On cherchait des négociations. On avait fait le bateau, Göteborg. On est allé à la Datar, on est allé à l'ambassade, on est allé partout pour essayer de négocier. Refus, refus, refus. Il n'y a rien à vous dire.
Ce n'est pas seulement Ivry qui accourt, mais les sympathisants et syndicalistes des communes du Val-de-Marne qui débarquent d'autocars affrétés dans l'urgence par les municipalités ou la CGT. La ville entière était bloquée, témoigne une ivrienne. Le bruit courait que le CRS allait occuper Ivry, c'était insupportable. Des milliers de manifestants s'assemblent autour de l'usine, invectivent les forces de l'ordre et en reprennent en cœur des slogans, comme en témoigne ce reportage. On y entend successivement un élu d'Ivry, puis un ouvrier expulsé.
Vous êtes élu de la municipalité d'Ivry. Qu'est-ce que vous pensez de cette intervention de la police?
Ça donne une belle idée du pouvoir socialiste pour l'instant pour régler les problèmes économiques.
Plus de fin fond, CRS et garde mobile, enfin, les forces d'intervention rapide, font intervenu brutalement et ont fait assez les travailleurs qui occupaient l'usine cette nuit. Et depuis, ils nous agressent. Hein. D'ailleurs, là, on est place Gambetta, ils nous vont repouffer, ils lancent des grenades lacrymogènes et ils matraquent.
Qu'est-ce que vous comptez faire, là, en cette fin de matinée et cet après-midi?
On va re-rentrer dans l'usine. C'est 20 mai, la police est intervenue dans une usine à Ivry. C'est pas forcément un gouvernement socialiste, on commencera.
On va re-rentrer dans l'usine. S'agit-il d'une parole en l'air? Peut-être pas, nous le verrons. Dans les médias, des centaines de personnes accourues place Gambetta près de l'usine font face à des rangs de CRS. On voit même des élus, bien que sains de leur écharpe, être violentés par les forces de l'ordre. L'air est saturé de fumée lacrymogène. Des voisins, des voisines surtout, accourent avec des bassines d'eau et des linges pour rincer les yeux enflammés. Dans l'usine, 200 à 300 CRS déménagent une partie des machines, direction l'Espagne. Toute la journée, pierres, boulons, grenades lacrymo volent d'un côté et de l'autre. À 17h, une manifestation rassemble 5000 personnes. Le nom de Mitterrand est conspué. Le lendemain, toute la presse ou presque met cet événement à la une. Dans l'humanité, un seul mot, l'agression, qui s'étale sur 5 colonnes. Chez les ouvriers expulsés de leur usine, le sentiment d'humiliation domine. Ces mois d'occupation, de combat, de manifestation, d'action tous azimuts, de proposition, tout cela piétiné en quelques heures par la force, par la violence légitime de l'État. Mais les SKF ne comptent pas en rester là. On avait décidé de reprendre notre usine, se rappelle Jack Thor, le secrétaire du comité d'établissement. Cette reprise en main, menée par la CGT, est prévue pour le 5 juin. Gérard Streff raconte dans le livre La légende des SKF.
L'opération commando mobilise 300 hommes, organisés en 6 groupes. Il y a là des salariés de SKF, des syndicalistes d'autres entreprises de la ville et du département, une forte présence d'ouvriers du livre et des militants qui, depuis des mois, vivent au rythme de cette entreprise.
Rendez-vous est donné à 4h du matin dans une annexe de la mairie qui abrite le garage municipal. Les hommes montent dans un camion Ben qui va, écoutez bien, défoncer un mur repéré au préalable comme un point faible de l'enceinte. Les assaillants s'engouffrent dans la brèche. Personne ne s'y attendait, en rigole encore le délégué CGT de l'usine. Les CRS étaient en pyjama. Ils n'arrivaient pas à concevoir qu'on puisse se permettre un truc pareil. Ils ont été humiliés. Une partie des CGTistes les plus costauds affrontent les forces de l'ordre. Les plus légers grimpent 4 à 4 dans les étages pour s'installer sur la terrasse d'un bâtiment, d'où ils bombardent les bœufs-marines à coups de boulons. Certains ont des frondes avec lesquelles ils expédient des billes d'acier. La bataille se déroule face à une foule de plus en plus dense. Habitants d'Ivry, ouvriers, syndicalistes, ils sont venus, comme quelques jours plus tôt, apporter un bruyant soutien aux ouvriers repreneurs. Après plusieurs heures d'échauffourée à l'intérieur de l'usine, les CRS atteignent la terrasse. Ils ont pour cela percé les plafonds et affrontent le dernier carré des ouvriers. La pagaille est indescriptible. Et on se bat aussi à l'extérieur de l'usine, CRS contre manifestants. Les lieux sont noyés dans un énorme nuage de gaz lacrymogène. Les vitres d'un café voisin volent en éclats. Vers 11h, relate le Figaro, plusieurs milliers de sympathisants, appelés par voiture sono à descendre dans la rue, rejoignent les abords de la place. Un cortège se forme, de très nombreuses femmes défilent dans le calme. Le bilan de la journée varie selon les sources, comme d'habitude. Les voix officielles annoncent 65 blessés côté CRS, 34 chez les manifestants, dont 2 victimes de traumatismes crâniens. La CGTL avance le chiffre de plusieurs dizaines d'arrestations, entre 54 et 68, 56 manifestants blessés, 21 personnes hospitalisées. Quoi qu'il en soit, les témoignages des ouvriers font état d'un déchaînement de violence de la part des forces de l'ordre, après que les hommes se sont rendus. L'un d'eux raconte.
Ils nous mettent en rang. Après m'avoir fouillé, un CRS me reconnaît. Je me présente, Jacques Tord, responsable CGT de la SKF. « On en tient un !» lance-t-il. « Il faut le jeter !» Un officier s'interpose et me bouscule vers la file des camarades. Je pensais que les violences allaient s'arrêter, mais non. Pour redescendre, je vois des CRS alignés le long du mur, du deuxième étage jusqu'au rez-de-chaussée, frappant à coups de pied, à coups de crosse, à coups de matraque. C'était la descente aux enfers.
Les ouvriers sont battus à tous les sens du terme. Une défaite, commente Figaro, une défaite dans la violence. Patrick Wanard, l'autre délégué CGT de l'usine, s'inscrit en faux contre cette vision émanant, il est vrai, d'un journal de droite. Ça a été la première fois dans l'histoire du mouvement ouvrier qu'on reprenait une usine au CRS et qu'on l'a gardée un certain nombre d'heures, dit-il. On l'a tenue de 5h du matin à 13h30. C'est honorable, contre 11 compagnies de CRS. Désormais, le gouvernement socialiste leur apparaît comme l'ennemi de la classe ouvrière. Ce dont se réjouit probablement le Figaro, qui écrit ceci dans son édito du 6 juin.
Hier, les forces de police n'étaient pas, aux yeux de la CGT, l'instrument d'une politique de maintien de l'ordre, mais l'image symbolique d'un gouvernement qui, selon elle, a choisi son camp, celui d'une logique capitaliste qui n'aurait d'autre critère que la rentabilité financière et se moquerait éperdument des hommes au travail.
Comment, après cela, tourner la page ? Les jours suivants, des réunions administratives sont organisées à la préfecture de Créteil pour tenter de trouver une solution au conflit, avec la possibilité, notamment, d'implanter de nouvelles activités sur le site. C'est ce qui s'est passé pour l'un des bâtiments de l'usine qui a abrité l'imprimerie du quotidien Le Monde entre 89 et 2015. Le reste a été détruit. Quelques immeubles ont poussé, logements, résidences étudiantes, espaces verts, qui effacent peu à peu le passé industriel du lieu. Maintenant, qu'est-il advenu des ouvriers et ouvrières qui ont occupé l'usine ? Eh bien, certains ont pu bénéficier de pré-retraite, d'autres de contrats FNE, visant à aider des salariés licenciés à retrouver un emploi, grâce à des formations notamment. Certains se sont engagés en politique. Et si le retour à la vie normale a été parfois compliqué après ces mois de résistance, ces jours d'une vie extraordinaire, au sens premier du terme, demeurent de ces jours-là le sentiment d'une dignité intacte, estime le cégétiste Patrick Wanard, interrogé quelques années plus tard.
D'abord, on a gagné l'honneur. Parce que quitte à être à la rue, il vaut mieux être debout. On n'a pas accepté, on s'est battu et on n'a pas été battu. On a battu en retraite, honorablement. Tous ceux qui ont occupé l'usine ont été reclassés. Alors que parmi ceux qui ne l'ont pas occupé, il y en a qui sont encore au chômage.
Ivry-sur-Seine n'a pas oublié. 40 ans sont passés depuis que SKF a fermé, que les ouvriers qui occupaient leur usine pour défendre leur emploi ont été expulsés manu militari. Mais dans les mémoires, il reste le souvenir d'une lutte qui était aussi celle de toute la ville. Sur les murs de la cité, le slogan « L'emploi, c'est la vie, SKF, c'est Ivry » est encore visible ici et là. Au 56 boulevard de Brandebourg, non loin de l'emplacement où se dressait le bâtiment de l'usine, on peut voir une fresque qui rappelle tout à la fois l'histoire de cette entreprise installée depuis 1904 dans cette commune du Mal-de-Varne, un jet de boulon de Paris et son combat acharné pour empêcher sa fermeture. À côté de figures de manifestantes, femmes et enfants, un ouvrier armé d'une fronde regarde le passant droit dans les yeux. Un David qui, cette fois, n'aura pas abattu Goliath.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le combat des SKF. Notre invité, Gérard Streff. Bonjour.
Bonjour, bonjour, et merci beaucoup de l'invitation.
Je vous en prie. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé à l'Humanité, vous êtes aussi essayiste et romancier, et surtout auteur du livre « La légende SKF, lutte, emploi, industrie », livre paru en avril de l'an dernier aux éditions du Petit Pavé, donc pour le 40e anniversaire de cette lutte des ouvriers de la SKF. Ça vous semblait important de marquer le coup pour cet anniversaire-là ?
Oui, tout à fait. À la fois pour rendre hommage à ces gens-là, qui étaient d'ailleurs très majoritairement des femmes. C'était une entreprise à 70% composée de salariés femmes. Et puis également, je trouve, on va peut-être en débattre, que c'est une autre manière de parler des années 80. Moi, j'ai une petite théorie là-dessus. Je l'exposerai tout à l'heure.
Bien sûr. Vous habitez Ivry depuis longtemps. Hein. Je crois que vous étiez sur place à l'époque où ce récit se déroule, c'est ça ?
C'est-à-dire que je connais SKF et ses salariés depuis la fin des années 70, mais au moment des événements, j'étais à Moscou. Ah. Parce que j'étais correspondant de l'Humanité à Moscou. Voilà. Et la singularité, c'est que je vois à la télé soviétique de rares extraits, surtout des amis ivriens apportent des vidéos de la troisième chaîne. Et donc, voilà, c'est de loin que je découvre ça. Je suis un peu frustré. J'ai un petit souvenir de débat avec les soviétiques qui, pour eux, commençaient à nous dire que c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut faire la révolution, ce qui était assez étonnant comme discussion, connaissant le sort ensuite de ces gens-là qui sont tous devenus des libéraux bontins.
Oui, et c'était déjà l'époque de Gorbatchev ?
C'était l'époque de Gorbatchev.
C'était le début, hein ?
Enfin, il arrive en 85, je crois.
Oui, c'est ça, c'est le début de Gorbatchev. Mais entre parenthèses, vous avez senti un changement à Moscou avec cette nouvelle équipe, Gorbatchev ?
Oui, incontestablement.
Qu'est-ce que vous avez senti ? C'est intéressant parce que c'est rare de pouvoir parler avec un témoin, quelqu'un qui est allé à Moscou, moment où il y a eu cette rupture historique de l'URSS.
Il y a déjà eu un petit changement de climat deux ans plus tôt avec la venue d'Andropov.
Oui,
Andropov, il avait un côté... évidemment, on lui met l'étiquette de KGB, ce qui est probable, mais c'était aussi un novateur, un intellectuel, etc. Mais il ne va pas durer longtemps, il est remplacé par Tchernienko. Qui dure pas longtemps et qui nous remet dans la passivité brejnevienne. Et donc, il y a quand même, en tous les cas, chez les plus politisés, une envie d'autre chose. Et dans l'équipe qui est autour de Gorbatchev, oui, il y a une nouvelle dynamique. Est-ce que ça passe dans l'opinion publique russe ? Ça, c'est encore autre chose.
Bien, alors on va revenir à nos moutons, à Ivry. L'histoire d'une dignité ouvrière, c'est le sous-titre de votre ouvrage. Alors, Alors, on comprend le titre. Hein. Et cette histoire en est imprégnée. C'est quoi pour vous la dignité ouvrière ?
C'est ce que Wannard disait dans votre excellente réalisation tout à l'heure, c'est-à-dire un sens de l'honneur, un sens de se battre. Ils font partie de ceux qui ne se sont pas couchés face à, pourtant, un air du temps qui était extrêmement rude, extrêmement difficile, où il fallait, nous disait-on, admettre les impératifs nouveaux de l'Europe, de l'austérité, de la rigueur, etc. Eux, ils disaient non. En plus, parler des ouvriers, je trouve qu'aujourd'hui, où on a tellement l'habitude de se moquer ou de considérer même qu'ils n'existent plus, j'avais envie de cette double appellation dignité ouvrière.
Vous pensez que depuis, pas la disparition, mais l'affaissement quand même important du Parti communiste français, les ouvriers ont perdu une part de leur identité politique, voire de leur dignité ?
En tous les cas, ils ont perdu un défenseur. Et puis eux-mêmes ont perdu leur propre, beaucoup d'éléments de contre-offensive. Vous voyez, je suis en train de travailler en ce moment sur le Front populaire. J'espère d'ailleurs qu'en France, dans cette année anniversaire, on va beaucoup parler
du Front populaire. Ah ben oui, en fait, on est en 2026, oui, 36-26, bien sûr.
Absolument, absolument. Et alors, je suis dans les premiers mois du Front populaire où on s'aperçoit que si ça marche, le Front populaire, c'est que vous avez en même temps et des élections et un mouvement social extraordinaire. Mmh. C'est-à-dire, la même semaine, vous pouvez avoir 500 000 grévistes et un nouveau gouvernement de gauche. Et je pense que si ça n'a plus marché de la même manière, soit en 68, soit en 81, selon moi, c'est qu'il y avait ou un mouvement social comme en 68 sans appui politique, ou un mouvement politique sans appui social en 81. Et donc, ces gens de SKF apparaissent un peu comme la dernière...
Les derniers des Mohicans.
Les derniers des Mohicans se battre, mais bon... c'est aussi leur titre de gloire.
Alors, ce qui est frappant, saisissant, voire émouvant, c'est que c'est un combat pour son emploi, donc c'est un combat pour une vie. Hein. On ne retrouve pas forcément un emploi, ça peut être évidemment un drame. Et en même temps, il y a cette joie dans le combat, mais la joie trouve ses racines dans le collectif, en fait. Et ça, c'est toujours... Ces épopées ouvrières nous touchent aussi par cet aspect-là.
Oui. Absolument. Et il faut réaliser que ces militants, ces combattants vont vivre pendant deux ans dans une occupation d'usine. C'est un temps extrêmement long. Et il va y avoir une reconstitution d'un collectif très particulier, très, très amical, très solidaire et très, très festif. Vous avez raison. D'ailleurs, je pense que certains, à la fin du combat, ont eu du mal à retomber sur leurs pieds et à retomber dans la vie quotidienne.
Il y avait quelque chose d'extraordinaire.
Absolument.
Vraiment à côté de l'ordinaire.
Absolument,
quoi.
Absolument, tout à fait.
Vous faites partie, je crois, de ceux qui, comme le syndicaliste que nous avons entendu, Wannard, pensent que les ouvriers de la SKF qui se sont battus, en fait, n'ont pas subi une défaite. Alors, si c'est une victoire, quelle est-elle ?
Mais vous savez, dans un combat, c'est pas forcément celui qui met le plus de buts qui gagne, c'est aussi celui qui joue le mieux, qui est le plus... Eh bien, je trouve que dans ce combat, entre le ministre de l'Intérieur, ses CRS, et puis ses ouvriers, c'est eux qui remportent la bataille. En tous les cas, une bataille symbolique. Et le fait qu'on en parle encore 40 ans après, c'est aussi un signe de leur victoire.
Bien sûr. Et les ouvriers disaient... Les CRS ont été humiliés.
Oui.
C'était ça ?
Oui. Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Ils en parlent, ceux qui ont connu cette réoccupation en parlent aujourd'hui avec gourmandise.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Le combat des SKF. Gérard Streff, je rappelle que vous êtes journaliste, essayiste et surtout auteur du livre La légende SKF, lutte, emploi, industrie, paru en avril 2025 aux éditions du Petit Pavé, donc pour le 40e anniversaire de cette lutte des ouvriers de la SKF. On va parler des années 80. Vous dénoncez la vague libérale qui commence alors à submerger la France, en particulier avec cette émission qui, on va le dire, était choquante, vraiment, qui s'appelait « Vive la crise », à laquelle Affaires Sensibles, d'ailleurs, a consacré un récit, alors qui est symptomatique de cette époque, jusqu'à une forme de provocation presque vulgaire, finalement.
J'enregistre absolument, je suis absolument d'accord avec les termes que vous utilisez. Vive la crise, nous sommes, je crois, en janvier ou février 84. C'est un appel finalement à désespérer pour dire, écoutez, vous y avez cru en 81, mais vous voyez, la vie c'est plus compliqué que ça. Et le résultat des courses, c'est que deux mois plus tard, aux européennes de 84, le Front National passe de 0 à 10%. C'est-à-dire que nous avons là un climat. Moi, je pense que... je vais peut-être un peu vite, mais je pense que l'opinion publique sous Giscard d'Estaing était plus à gauche que sous Mitterrand. Il y a eu sous Giscard d'Estaing une opinion publique qui était très dans la contestation, dans la critique, dans l'espoir, etc. Et ça, c'est typique. Regardez toutes les productions, même culturelles, de ces années 70 sont bluffantes. À partir des années 80, on sent qu'il y a une... Alors que le gouvernement... de gauche, on sent que l'idéologie, la tête des gens est plutôt, bon, pas droite si on veut dire, mais, passivité, chacun pour soi, il y a peut-être trop de fonctionnaires, il suffirait peut-être de traverser
la rue.
Ouais,
ça infuse quoi, ça infuse. Oui, oui. En fait, c'est la révolution de Reagan avec son cheval de Troie, oui. Margaret Thatcher aux États-Unis, en Grande-Bretagne,
absolument.
Et puis après ça tombe comme des dominos.
Absolument.
Et on est dedans, en fait.
Absolument.
Oui, alors justement, puisqu'on est
absolument.
Dedans, on reproche tellement le tournant de la rigueur, comme disait Mitterrand. Il a osé prononcer le mot, on n'osait pas le prononcer, mais enfin, entre 81 et 83, je disais, François Mitterrand a respecté son contrat électoral, les 39 heures, cinquième semaine de congés payés, retraite à 60 ans, hausse conséquente du SMIC, tout ça, ça a coûté cher. L'économie commence à être mondialisée, et je crois que dans la tête de François Mitterrand, il s'agissait que la France ne décroche pas. D'où cette politique d'économie dite de rigueur. Est-ce qu'elle avait le choix ?
Moi, je nuancerais un petit peu.
Oui, vous pouvez,
je pense que Mitterrand a respecté de 81 à 81. C'est-à-dire que pendant les premiers mois, il a fait c'est pourquoi il avait été élu, mais très vite dès 82. Vous l'avez dit d'ailleurs dans l'émission. On commence à habituer les gens à un repli. Tout de même, il était élu sur des thèmes. Refus de la désindustrialisation, etc. Et on fait comme si on découvre, là, en 83-84, une réalité qui était déjà sous Giscard d'Estaing. Une autre politique aurait été possible. Une autre politique peut-être avec la Chine, une autre politique avec l'Europe, une autre, enfin, etc. etc. Il ne s'agit pas de nier les problèmes de modernité de toutes ces industries, mais il y a eu vraiment un changement de... Un changement d'optique. Et dans ce changement, je crois, la démoralisation a été un élément capital. C'est-à-dire que plus que les policiers et la matraque, un Yves Montand et son Vive la crise est sans doute un des éléments les plus vicieux du désarmement moral des gens.
Jusqu'à juillet 84, il y a eu, rappelons-le, des ministres communistes au gouvernement. Alors, au début du conflit SKF, ils ne sont pas très à l'aise pour s'opposer aux socialistes, puisqu'ils gouvernent avec eux. Et on le sent d'ailleurs dans la déclaration de Georges Marchais au sortir de son rendez-vous avec Fabius en décembre 83. Vous qui étiez journaliste à l'Humanité, vous avez bien cerné la psychologie des communistes à ce moment-là. Ils étaient un peu assis sur une punaise quand même.
J'étais à Moscou, donc j'étais très loin. Là.
Oui, mais avant, vous n'avez pas passé des années à Moscou. Vous avez connu les communistes français. Vous avez interviewé, vous les connaissez bien. Qu'est-ce qu'ils vous disaient de leur position ?
Je pense que dès 82, il y a un gros malaise et finalement une certaine division dans l'opinion communiste. La création et l'élaboration du programme commun de gouvernement de ce gouvernement de gauche est a été tellement revendiqué, proposé pendant 10 ans, pendant 15 ans, c'était devenu voilà un tel impératif. Donc ça contribuait à une idée de statu quo, mais en même temps il y avait chez beaucoup la conscience que on avait glissé de la politique initiale de gauche vers autre chose. Donc il y avait du malaise et de la division, et Marchais doit tenir compte de ça. Il doit tenir compte des ministres qui eux n'ont peut-être pas envie de quitter leur ministère, et une base militante qui elle dit quand est-ce qu'on se tire.
Et après, quand les cobistes se tirent, il dit, je crois, Marchais dit, notre politique par rapport au gouvernement socialiste, ça va être soutien sans participation. Vous vous souvenez de ça?
Soutien sans participation.
C'est un peu tordu quand même.
Oui, ça fait penser à Thorez et au Front Populaire. D'ailleurs.
Ben voilà, ben c'est un continuum, hein, de toute façon. La gauche au pouvoir, c'est un continuum. On est très exigeant avec elle, forcément. Ouais. Puisque parfois elle vend du rêve. Et parfois elle le réalise, et parfois elle le réalise pas. Et c'est ce continuum-là qui est compliqué. Puisque vous êtes attaché aux grands mouvements sociaux, et vous parliez des années 70, où la France était plus à gauche finalement que dans les années 80. Quel est votre regard sur ce conflit emblématique de l'IP en 1973, qui a débouché sur une SCOP?
Oui, conflit magnifique, conflit où il y a là une autre alternative qui n'est pas forcément partagée par nous tous. D'ailleurs, c'était certains considéraient que c'était une option un peu illusoire, mais je trouve que c'est une façon d'affirmer une présence et une volonté de droit ouvrier qui est remarquable.
Alors tout de même, dernière question, on a 50 secondes. La France est toujours un État social, il n'a pas disparu en tant que tel, il est plus ce qu'il était, c'est vrai. Que reste-t-il aujourd'hui de notre modèle social, à votre avis ?
Que reste-t-il de notre modèle social ? Heureusement, ce qui s'est fait au moment du Front Populaire, à la Libération, en 68 aussi, et en 81, a laissé des traces suffisamment fortes pour qu'il y ait encore une singularité française. Mais bon, on sent bien que c'est sacrément mis en cause.
Merci infiniment, Gérard Streff. Au revoir.
Au revoir. Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le combat des ouvriers de SKF à Évry-sur-Seine. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot.